Alors là, vous me parlez des différentes disciplines qui sont sciences humaines, les scientifiques et autres auxquelles, avec lesquelles vous allez collaborer, qui est dans le sens de comprendre les autres mouvements. Est-ce que vous allez collaborer aussi, ou est-ce que vous collaborez déjà, avec des artistes pour la mise en scène esthétique, puisque maintenant une exposition a besoin d'être mise en scène, surtout quand dans l'ethnologie vous travaillez avec des objets du quotidien.
Alors ça, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on fasse aussi, en même temps dans une politique de quartier, parce que vous savez que le quartier des bains, enfin, la jonction et tout ça est un quartier qui devient extrêmement, qui va devenir, je le souhaite, extrêmement important sur le plan artistique. Il y a des galeries, il y a le MAMCO, il y aura le centre de la photo qui va s'installer, le musée d'ethnographie. Donc là, véritablement, il faudra faire une politique de quartier. Il faudra que les gens nous portent.
Oui, il y aura aussi le centre pour l'image contemporaine.
Absolument.
Donc le grand bâtiment.
C'est prodigieusement intéressant ce qui va se passer. Et puis on va collaborer tous ensemble et on va essayer de créer non seulement une ouverture large, mais on va aussi renforcer l'esprit de quartier, parce que c'est à partir de là, et quand les gens seront fiers de toutes ces institutions, eh bien je crois que nous atteindrons le bonheur quelque part.
Enfin, d'après les budgets qui sont prévus, il semble que les gens en seront fiers, mais ça va leur coûter très cher. Déjà pour le bâtiment d'art contemporain qui va recevoir les 5 institutions. Ensuite, ce nouveau musée d'ethnographie, ça ne vous semble pas, dans la période économique actuelle, un objectif assez difficile à atteindre?
Ça sera peut-être difficile, mais je pense que si notre explication est claire et séduisante, parce qu'elle doit l'être, parce que véritablement nos objectifs sont séduisants, on peut comprendre ça. Et je crois qu'aujourd'hui, la culture... pas qu'on en dise, est quand même un facteur important au sens de l'économie, au sens de pour le tourisme, pour l'ouverture d'une cité comme Genève, plus qu'ailleurs encore. Et je pense que tout un chacun peut comprendre la nécessité de ces investissements, qui sont des investissements, je dirais, nécessaires, parce qu'en même temps, c'est apprendre qui nous sommes, apprendre ce que sont les autres. Et je crois qu'avec une information de qualité, nous pouvons faire passer ces budgets, qui sont des budgets d'investissement à long terme. Et je dirais que, mais peut-être direz-vous que je parle pour moi, mais que pour la culture, il n'y a pas de prix. Et que tout ce qu'on peut y mettre, c'est rentable à plus ou moins court terme, à plus ou moins long terme, et qu'on est très fiers de retrouver la qualité d'institutions muséales, de la qualité de lieux qui sont des lieux d'exception pour montrer des expositions. Et je pense que Genève a ces moyens-là et que, je le souhaite, le public genevois va le comprendre.
D'après les différentes études qui ont été faites sur les impacts économiques, je pense notamment aussi à celle d'Antonio D'Acugna qui est venu nous en parler ici. L'argent investi dans la culture rapporte beaucoup plus que même que ce qui est donné. Comment se fait-il que l'opinion estime encore que la culture c'est un petit peu gratuit et que c'est de l'argent qui est dépensé?
Alors,
pour le plaisir.
Je pense que les analyses qui sont faites effectivement montrent que pour quelques francs investis, ça en rapporte beaucoup. Mais ce sont des études qui sont peut-être peu spectaculaire, et ben, c'est vous qui allez nous aider, ce sont les médias qui devraient davantage mettre l'accent sur ce rapport économique et mettre en avant, justement, et nous avons aussi un rôle à jouer, un rôle médiatique à jouer, en essayant de faire comprendre que cet argent investi est un argent qui profite aux patrons de brasserie, aux vendeurs de chaussures, et aux vendeurs de journaux, aux vendeurs de cravates, ou je ne sais quoi, n'est-ce pas? Et c'est ça qui fait la qualité d'un tissu économique. Et sans culture, vous êtes mort. Mais il faudra peut-être encore le dire haut et fort, le clamer haut et fort. Et c'est pour ça que tout aspect médiatique est pour nous important, parce qu'il y a plusieurs canaux par lesquels cette information doit passer.
Alors, puisque nous parlons d'argent, les sponsors, enfin, ou les soutiens en général, sont généreux pour conserver le patrimoine, pour soutenir les musées des beaux-arts. Est-ce que l'ethnographie est un parent pauvre, par exemple, dans le niveau des soutiens par rapport à ces disciplines un peu plus médiatiques?
Oh, je pense que nous avons peut-être quelques longueurs de retard sur l'art moderne, ou sur les beaux-arts en général. Parce que, vous savez, nous avons été formés dans cette culture artistique. Et il y a quand même encore un déficit qu'il faut relever, c'est que l'ethnologie ne s'enseigne qu'à l'université. Et je pense que ça, c'est quelque chose de dommageable pour notre discipline, parce que je l'ai vu souvent dans ma pratique à Neuchâtel, on voit les enseignants qui travaillent à quelque niveau que ce soit, sont des gens qui ont tous fait de l'histoire. Donc ils vont au musée d'histoire. Ils ont tous fait des sciences naturelles. Ils ont appris un peu de botanique, un peu de... Ils vont au musée d'histoire naturelle. Ils ont eu des cours d'histoire de l'art, donc ils vont au musée d'art et d'histoire. Mais ils n'ont pas eu de cours d'ethnologie. Alors ils nous ont fait savoir souvent leur crainte, même si nous les encadrons bien, de venir avec leurs élèves en se disant « on va être pris en défaut, on ne connaît pas vraiment ce qu'est cette discipline ». Donc l'idéal serait que nous puissions enseigner, au moins dans les lycées, au moins au niveau secondaire supérieur, et pourquoi pas dans les écoles même primaires, des rudiments d'ethnologie, et ça permettrait au musée d'ethnographie d'être encore beaucoup plus présent sur la place publique. Et je pense que c'est un peu cette différence de traitement de cette discipline dans l'enseignement qui fait que nous avons quelquefois des difficultés à nous faire comprendre et à nous imposer dans un grand public.
Alors, pour revenir sur notre société actuelle, puisque vous avez abordé le sujet tout à l'heure, vous parliez des caricatures de Mahomet. Comment, en tant qu'ethnologue, pensez-vous qu'elles ont été présentées? Est-ce que le côté explication a été totalement occulté pour laisser simplement place à la provocation?
Alors, c'est très compliqué. Je sais que ces caricatures ont été présentées à la fin de l'année passée dans des journaux égyptiens. Et ça n'a soulevé aucun problème. Enfin, ça n'a posé aucun problème. Alors, évidemment, moi, je ne connais pas le dossier dans son détail. Il y a le problème, effectivement, de tradition culturelle, de respect qu'on doit avoir les uns vers les autres. Puis, en même temps, je peux quand même présupposer qu'il y a là derrière une manipulation politique qui permet de positionner des gens contre d'autres. Et c'est ça qui est extrêmement complexe à analyser. C'est la récupération à travers ces interdits ou ces construits culturels qui sont faits par des gouvernements ou par des factions politiques. Donc c'est un sujet éminemment compliqué et éminemment complexe.
Et ce qui était étonnant, je pense à, disons, à l'avis des professionnels, puisque je crois il y a à peu près 3 semaines, le courrier avait consacré un magazine du week-end où il avait interrogé les 3 plus importants caricaturistes qui travaillent en Suisse. Je pense à Chapat, à Hermann et un 3e que j'ai oublié.
Excusez-moi pour lui. Ou je ne sais pas. Enfin,
et les 3 parlaient de provocation, disaient qu'ils n'auraient pas publié genre d'image.
Oui, parce qu'ils ont un certain sens de l'autocensure. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans mon musée avec une liberté intellectuelle totale. Jamais le politique n'est venu se mêler de ce que je faisais. Mais pourquoi ? Parce que je pratiquais moi-même l'autocensure. Et ça, c'est une question, comment est-ce qu'il faut dire ? C'est un apprentissage éthique qu'il est nécessaire de donner à chacun, savoir jusqu'où aller ou ne pas aller. Parce que provoquer pour provoquer, j'ai toujours trouvé que c'était stupide. Moi, je suis un des spécialistes de la provocation. J'ai beaucoup utilisé l'ironie, l'humour pour créer des réactions. Mais ça ne peut se faire qu'avec des objectifs qui sont précis et qui sont constructifs. Mais se moquer pour se moquer est véritablement sans intérêt. Et je crois que c'est ça. Et en même temps, il faut savoir aussi pratiquer l'humour sur soi. Et je suis sûr que les musulmans savent le faire. Mais en l'occurrence, ils se sont servis de cette cause pour émettre leur désaccord ou leur contradiction avec la société occidentale.
Et alors, est-ce qu'il n'y a pas le terme autocensure, est-ce qu'il n'est pas un peu fort par rapport à, disons, à ce terme que l'on n'aime pas entendre, donc censure, est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'une plus grande tolérance ?
Plus grande tolérance, peut-être qu'autocensure est peut-être trop violent, mais vous savez, la censure existe. La censure existe, et même chez nous, et elle existe même dans les musées, hein, dans certains cas. Donc il faut savoir véritablement se positionner. Mais je dirais, moi je n'ai jamais eu ces problèmes-là, parce qu'un discours qui est bien construit, théoriquement, ne rencontre jamais ces problèmes-là, parce que c'est quelque chose qu'on comprend. On comprend que c'est un construit de qualité, que c'est théoriquement pensé, qu'il y a des arguments, et on n'est pas pris en défaut en faisant des fautes chronologiques, des fautes d'interprétation graves. On peut toujours contester le propos, c'est vrai, mais j'entends, si une exposition, si un produit est bien construit, la censure glisse par-dessus, ça n'a plus d'effet.
Donc le problème des caricatures est surtout aussi un problème des médias qui ont plutôt montré la provocation, essayé même d'attiser un petit peu le voyeurisme et autres sur ce sujet, plutôt que de vouloir céder la parole à des professionnels tels que vous, des sociologues et autres, et même les caricaturistes dont on a parlé, pour pouvoir faire comprendre au public qu'il y avait autre chose à comprendre.
Ça c'est vrai, et c'est la raison pour laquelle je vous dis que le musée d'ethnographie devrait être maintenant prêt à pouvoir créer une place de discussion avec des spécialistes et avec l'aide des médias qui nous apportent les dernières informations sur la question. Mais effectivement, ne monter ces problèmes qu'on épingle pour faire des taux d'écoute, c'est quelque chose qui n'est pas favorable pour la discussion interculturelle.
Alors c'est peut-être grâce au montage de ces expositions, qu'on qualifie souvent de dérangeantes, que vous êtes venu aussi, par ce montage intellectuel, cette capacité d'explication, on peut dire que vous êtes devenu un véritable chouchou des médias, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger.
C'est vrai, je dois dire que j'aime les médias parce que je m'en suis servi, mais c'est un échange de qualité. Je donne mes connaissances, mes propos, et en général, les médias me le rendent bien parce qu'ils me permettent de m'exprimer. Et je pense que c'est quand même quelque chose de très porteur. Et ensemble, véritablement, nous pouvons construire un discours de qualité, pour autant qu'on prenne le temps de nous donner quelques minutes pour nous exprimer, ce qui est le cas ici, et je vous en remercie.
Alors, à quelque niveau que ce soit, maintenant, le conservateur, il peut aussi se faire valoir à travers le média qu'est l'exposition. Il y a aussi cette construction, donc, de personnages. C'est un moyen d'obtenir une certaine gloire. Ça peut se faire aussi au détriment de l'exposition, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Si elle est mal montée, le propos ne passera pas.
C'est vrai. Le médium exposition est un élément qui peut faire des conservateurs aujourd'hui de véritables stars, d'un mode et d'une manière de penser. Mais pourquoi pas, si le propos et le produit est de qualité. Et il n'y aura pas de stars avec des choses qui sont nulles et ratées. Alors je dirais que c'est une conséquence qui est portée avec plus ou moins de bonheur par les médias de cas en cas.
On l'a vu par exemple dans les arts plastiques avec Harald Zeman, qui signait donc des expositions que l'on allait voir uniquement parce qu'il était le commissaire de l'exposition. Et celle qui, nous autres, qui est actuellement présentée, porte aussi le signe des expositions que vous avez montées à Neuchâtel.
C'est vrai. Je crois que je m'en réjouis parce que, sans vouloir dire que nous avons créé une école, mais enfin nous avons quand même été les formateurs de certains étudiants, et nous avons créé une ligne ethnographique qui est reconnue. Et quand on reconnaît un certain style, on aime ou on n'aime pas, mais néanmoins ça capte l'attention du visiteur et du grand public.
Alors, il y avait un propos étonnant dans la presse où on expliquait que, enfin, il était expliqué que la nouvelle de votre nouvelle direction allait créer des contacts entre Neuchâtel et Genève. On aurait pu imaginer qu'ils existaient déjà.
Alors je pense que c'est dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est à travers la refonte de notre enseignement universitaire, en signant ces accords de Bologne où nous aurons des bachelors et des masters maintenant, des temps d'études qui sont différents et qui nécessitent véritablement de nombreuses places de stage dans les musées, pour ceux qui feront de la muséologie, etc. Or, ces collaborations, il faut qu'on ait une bonne ethnologie, tant à Genève qu'à Neuchâtel, pour d'abord et pour pouvoir répondre à ces demandes universitaires, à ces demandes de stagiaires, afin de permettre de participer avec nos institutions à leur formation. Or là, il y a déjà des synergies possibles qui vont se mettre en place très rapidement. Et ensuite, on peut aller plus loin en disant, mais pourquoi ne pas de temps en temps faire des expositions communes, faire des échanges communs, ou de travailler sur des collections en commun avec des conservateurs payés en commun par Neuchâtel et Genève, pour que ces savoirs se retrouvent. On n'est plus dans cet isolement, dans ces tours d'ivoire qui ont peut-être été celles que certains musées ont défendues il y a quelques décennies. Aujourd'hui, on essaye de mettre à plat un savoir, on essaye d'utiliser au maximum les compétences, et après que chaque musée trouve sa ligne, trouve son look, trouve son image de marque, dans la manière de présenter les résultats. Et c'est en cela que nous sommes à la fois dans une collaboration que je souhaite la plus efficace possible, puis après qu'on devienne des concurrents au niveau du jeu médiatique et du jeu public. Et je crois que c'est ça qui fait le bonheur et l'intérêt pour un grand public.
Alors, comme vous le citiez dans un catalogue, que les musées ressemblent trop souvent à des cimetières. Le but est donc véritablement les dépoussiérer. Mais ces musées ont souvent souffert, par exemple avec le musée parisien, d'expositions axées sur des comparaisons, avec des confrontations plutôt avec les primitifs. Est-ce que maintenant, les nouveaux virages que l'on voit dans les expositions, qui sont plus sur la société contemporaine, vont permettre d'attirer plus de visiteurs ?
Alors, je pense, parce que, vous savez, on est en quelque part comparable à des musées d'art modernes, qui sont quand même ceux qui sont le plus visités aujourd'hui, avec les musées d'archéologie, bien souvent, pour d'autres raisons. Et il y a quand même aussi une tendance intéressante, ça nous n'en avons pas parlé, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un pan de l'ethnographie qui est au fond en train de basculer dans les beaux-arts. Hein, c'est-à-dire que le mot d'ethnographie étant peut-être un peu péjoré, lié à des problématiques coloniales, on se dit, tiens, montrons les objets uniquement pour leur esthétique, et puis mettons un peu l'ethnographie derrière le voile, et regardons seulement la beauté des objets. Alors c'est une façon de gommer, au fond, nos relations nord-sud, nos relations, les relations que l'Occident a eues à travers la colonie, à travers le colonialisme, parce que c'est pas toujours agréable à dire. Alors il y a ces deux aspects, et moi je suis pour la défense du mot ethnographie, parce que je trouve qu'il pose bien ce qu'il pose, et c'est la raison pour laquelle je souhaite ardemment que désormais le musée d'ethnographie de Genève continue à s'appeler musée d'ethnographie de Genève et qu'on abandonne toutes ces formules musée des cultures, musée des civilisations, esplanade des mondes ou je ne sais quoi. C'est une tradition, c'est une discipline et même si certains ne savent pas très bien ce que c'est, on va tenter de l'expliquer sous ce label-là et je crois que c'est ça qui va faire la force de l'institution genevoise.
Alors pour revenir au sens, justement, comme vous dites, des objets, il y a une exposition qui vous dérangeait un petit peu en ce moment à Genève, c'est celle qui présente des masques tout à fait de manière totalement dégagée, déconnectée avec leur utilisation.
Alors ça, c'est une exposition, alors comme je l'ai dit avant, qui relève d'un présupposé ou d'un regard qui est le regard de l'esthétique, où véritablement, là, le collectionneur veut aller voir des formes qui l'intéressent, etc. Mais qui est effectivement déconnecté d'explications ethnographiques. Parce que présenter un masque sans son attirail et sans son costume, c'est consommer quelque chose d'autre. Mais encore une fois, nous sommes là devant des regards qui nous montrent, au fond, nos présupposés culturels, qui sont ceux de l'occidental, qui collent de nouveau des acquis sur des objets en disant ben, « tiens, ceci me fait ressembler à cela ». On dirait de la sculpture grecque, ou on dirait, hein, quand on va chez les lobbies qui ont des sculptures très effilées, j'ai vu des gens qui disaient « tiens, on dirait du Giacometti hein ». Et ça, c'est un jeu intéressant, parce que ça montre comment la toute-puissance, encore une fois, du construit culturel dans le regard que nous posons sur les objets.
Donc éviter la tentation de l'esthétique, respecter le sens et faire comprendre notre société.
Oui, ça, je pense que c'est un bon challenge pour un musée d'ethnographie.
Et surtout si vous partez avec comme idée de réaliser en 2007 quelque chose sur les catastrophes, vous serez véritablement dans les préoccupations actuelles.
Oui, dans les préoccupations actuelles, mais je dirais qu'il y a peut-être de l'esthétique, je ne sais pas, dans les catastrophes et il s'agira de l'analyser.
Alors nous allons bientôt arriver au terme de cette émission. Jacques Hénard, vous passez donc, on a parlé un petit peu au début, d'une ville de 35 000 habitants à une agglomération transfrontalière, on aime bien dire ça, à Genève, qui fait 750 000 habitants. Le musée va donc avoir une conception totalement différente de ce que vous offriez à Neuchâtel.
Bien sûr, c'est un musée qui devra, au fond, s'inscrire dans ce que l'on appelle aujourd'hui des projets d'agglomération. le bassin lémanique, une partie de la France qui est proche, et je pense qu'on doit s'inscrire dans ce tissu relationnel et essayer de capter les intérêts des uns et des autres. Mais je crois que nous en avons les moyens, nous avons des moyens scientifiques, des moyens politiques, et j'espère que les moyens financiers vont suivre. Et c'est ça, véritablement, l'aventure que je vais essayer de vivre durant ces 3 ans qui me sont offerts à la tête de cette institution genevoise.
Et alors, je vous souhaite de pouvoir séduire les Genevois qui pourront présenter ce nouveau bâtiment.
Je vous remercie.
Merci, Jacques Hénard.
Merci beaucoup de votre accueil. Merci.